à tous. Bonne année à tous. Quelle joie et quel plaisir d'être là avec vous ce matin et d'être là avec vous dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mon frère, je n'ai pas apporté le contrôle, si tu peux m'apporter. Merci. C'est pour moi la joie aussi de la première fois de cette année de 2020, vous apporter une méditation, une exhortation de ce que Dieu veut pour nous. Et bien sûr, de ma réflexion, de ma préparation, ce qui était dans ma tête, c'est « Seigneur, qu'est-ce que c'est important pour cette année de 2020 ?» Parce que je sais, et vous aussi, qu'aucun changement n'arrivera dans le domaine de l'espace-temps. En quelque part, il y a une loi qui nous dit que les choses vont se répéter cette année. Pas exactement comme l'année de 2019, 2018, 2017. Mais nous retrouverons dans cette année des joies. Nous rencontrerons des pertes. Nous aurons des victoires. Nous aurons des frustrations. Nous aurons des bénédictions, mais nous aurons aussi des souffrances. Toutes ces choses risqueront d'arriver cette année 2020. Toutefois, je crois que même si la vie passe comme l'habitude, nous pouvons cependant vivre toujours dans une nouvelle perspective. Nous pouvons mieux vivre les années ou l'année à venir. C'est pour ça que j'ai mis comme titre « Une vie de prière ». C'est un titre un peu ringard, je le sais. Mais c'est ça que m'exprime le texte que nous allons lire ce matin, Philippiens chapitre 4, du verset 4 au verset 7. Réjouissez-vous dans le Seigneur et en tout temps. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre bonté soit retenue par tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute occasion, par la prière et la supplication, accompagnée d'actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà ce que Paul nous dit. Et je crois en sa pertinence ainsi qu'en sa nécessité qui existe pour nous de vivre ensemble et partager et parler dans cette communauté, dans cette église, nos besoins les uns des autres, d'être avec les uns les autres. Car pour moi, ces nécessités sont tellement grandes qu'elles nous amènent parfois à chercher partout une solution et un réconfort pour nos vies. Ainsi, l'Église devient, pour moi et pour toi, pour nous tous, un lieu de rencontre des gens qui puissent nous écouter, qui puissent nous reconnaître. Ainsi, l'Église devient pour nous un endroit de reconnaissance les uns des autres. Reconnaissance pas dans le sens de la joie, de la grâce, mais reconnaissance dans le sens de faire connaissance. Je crois que c'est une chose tout à fait légitime et que cela peut nous aider. Néanmoins, aujourd'hui, mon désir est de parler sur la singularité qu'il y a dans l'action de chercher en Jésus, par la prière et en communauté, le sens et la paix pour notre vie. Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui bouge d'une façon jamais vue auparavant. Le sociologue polonais qui s'appelle Zygmunt Bauman, il dit souvent que La qualité d'information que nous trouvons dans le journal aujourd'hui est semblable à la quantité d'informations que nos grands-parents ont vues dans toute leur vie. Alors, bien sûr, immergés, ou plutôt submergés par tellement d'informations, bien sûr que dans notre société, ce type de société peut aussi être reconnu comme une société de consommation qui cherche des possibilités. On est tellement envahi par des informations qu'au fur et à mesure, on s'y perd. On est dans une société où on a ce qu'on appelle le syncrétisme. La personne, elle est laïque de lundi à jeudi, le vendredi, elle est musulmane, le samedi, elle est juive, le dimanche, chrétienne, et à la fin du soir, elle a fait quand même une prière à Abraham. On trouve tellement d'informations, et comment trouver la paix et la vérité dans tout ce qui est dit et par tous? Cette société est aussi une société de l'indifférence. L'indifférence jouée d'une part par l'individualisme, mais qui, à mon avis, n'est rien d'autre que l'égoïsme. Et d'autre part, par l'amour propre, qui, dans le fond, n'est que ce qu'on appelle le narcissisme. On a tellement de choses à faire, on est tellement pressé. Combien de temps on donne pour écouter l'autre? Combien de temps on donne pour mon frère qui est à mon côté ce matin? Par rapport à cette société, je me souviens d'une recherche faite par Coca-Cola et Microsoft. Je voulais vous rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas, je trouve très intéressant. Ils ont fait pour travailler la durée de la motivation de ces employés. Donc, ils ont augmenté leur salaire. Ils ont accompagné la joie ou le sentiment de ces employés. Alors, le premier mois, ceux-ci sont engagés davantage. Leur salaire était augmenté, donc ils sont engagés, ils étaient très contents, ils étaient joyeux. La plus grande majorité d'entre eux ont appelé leurs parents, ont fêté avec leurs épouses. Voilà, ils ont fait des petits voyages, ils ont profité de cet avantage qu'ils ont eu dans leur travail. Cependant, ils ont aussi constaté qu'après deux mois, les employés étaient ni contents ni joyeux. Mais tous, sans exception, étaient endettés. La joie a duré très peu. Et à la fin, après 3 ou 4 mois, ils ont découvert que les employés étaient redevenus mécontents comme auparavant. Voilà. Malgré l'avantage qu'ils avaient, l'augmentation de salaire, ça n'a rien changé de leur motivation. Bien, je partage avec vous ces réalités. Et parfois, nous nous identifions avec cette vérité. Et à cause de cela, nous pouvons penser que ce cercle vicieux des relations, cette façon de vivre, soit une chose qui concerne seulement les autres, le monde, non pas nous. Je crois que parfois nous sommes tentés à penser que parce que nous sommes croyants, ce type de sentiment et de pensée ne peut pas nous concerner. Eh bien, cela n'est pas vrai. Voyez l'exemple le plus frappant de l'Église de Philippiens, où l'apôtre Paul exhorte les chrétiens, les croyants, à vivre tout d'abord dans la joie. Ça peut nous montrer, nous donner une voie à suivre pour bien comprendre la situation, le contexte par lequel les frères sont passés. Alors, nous pouvons souligner 2 choses. La première est ce que nous dit le verset 5. « Que votre bonté soit reconnue par tous les hommes. Tout d'abord, mes amis, je crois que les chrétiens ont une façon de vivre qui est un panneau indicateur du royaume de Dieu, qui arrive un jour, c'est-à-dire qui va se manifester un jour, mais qui est déjà là. Ici, je parle de notre responsabilité en tant que chrétien de témoigner avec nos vies, à chaque jour, tout ce que le Seigneur fait. C'est pour ça qu'il va dire, le Seigneur est proche. La venue de Christ n'est pas une création de l'Église, mais au contraire, c'est une promesse de Christ pour nous. C'est une espérance réelle de l'Église et pour l'Église. Autrement dit, c'est le royaume de Dieu qui arrivera d'une façon absolue. Il est déjà là, nous pouvons déjà vivre dans la joie. Mais l'accomplissement total de ces royaumes viendra dans la deuxième venue de Jésus. C'est ça que l'apôtre nous dit. Un autre point que je voudrais développer, c'est le contexte de persécution. Regardons chapitre 1, verset 28. « Ne vous laissez effrayer en rien par vos adversaires. » C'est le contexte dont l'Église vivait. Le contexte où la réalité des persécutions n'est pas une nouveauté pour nous. Car nous savons bien que dans la période biblique, l'Église souffrait de l'harcèlement. Comme nous l'avons lu dans l'Église des Philippiens, ce n'était pas différent de nos jours. Et Paul va les exhorter à rester dans la joie, non parce que leur vie était bien, non parce que la prière était répondue, non parce que simplement les miracles sont arrivés dans leur vie. Parce que malgré toutes ces choses, ils étaient encore dans la souffrance de la persécution. Toute la souffrance n'était pas enlevée. L'exhortation de Paul est que les Philippiens endurent cette réalité dans la joie, car le Seigneur, source de toute bonté, de paix et d'espérance, est avec eux. Jean chapitre 16, verset 33, nous dit « Je vous ai parlé ainsi que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous connaissez la détresse. » Mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Il ne dit pas courage, j'ai vaincu le monde et vous n'aurez pas à vivre la détresse. Courage, j'ai vaincu le monde, donc il n'y aura plus de souffrance à vous, ne vous inquiétez pas. Vous aurez de la détresse, mais courage. Ma victoire, c'est votre victoire. Vous aurez à votre fois vaincre aussi. Traverser des épreuves dans la joie, comme nous encourage l'apôtre Paul, à mon avis, c'est une chose très difficile. Toutefois, nous allons, selon la promesse de Dieu, la paix. Par contre, nous vivons parfois toutes sortes de circonstances, dans un contexte de persécution non extérieure, mais intérieure. Et cela nous laisse toujours anxieux et inquiet. Le proverbe 16, verset 32, nous dit « Qui est maître de soi vaut mieux qu'un conquérant. » Alors, que devons-nous faire face à cette réalité? Que devons-nous faire face à une année dont on ne connaît pas ce qui va arriver? Que ferons-nous? Quelle voie les Écritures nous présentent-elles pour combattre les incertitudes? Eh bien, la réponse pour moi, c'est ce que Paul va nous dire, verset 4, verset 6. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute occasion, par la prière et la supplication, accompagnés d'actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. La réponse de vivre dans ces incertitudes, c'est la prière. Je vous dis souvent et je rappelle cette interview donnée par la mère Thérèse de Calcutta, où le journaliste lui a demandé « Qu'est-ce que vous dites quand vous priez ?» Et la réponse qu'elle a donnée au journaliste, ça m'a touché. Moi, je ne dis rien, j'écoute. Et le journaliste lui demande, mais qu'est-ce que Dieu te dit alors? Lui, il ne dit rien, il m'écoute. Ce que j'aime dans cette réponse, c'est la symbiose. C'est-à-dire l'intime relation que nous pouvons avoir avec Dieu et Dieu avec nous. Ici, je voudrais faire une remarque sur qu'est-ce que c'est la prière. D'abord, la prière, c'est la possibilité que Dieu nous a donnée de partager avec lui tout ce que nous voulons. Il n'y a pas de règles ni de façon correcte de prier, car la prière naît du cœur qui aspire à Dieu. Mes frères, ce que vous voulez dire à Dieu, allez-y, dites-le. Car le péché n'est pas de dire n'importe quoi à Dieu, le péché c'est de vivre aliéné à la présence. Autrement dit, le péché c'est de ne pas parler avec Dieu. Rappelons-nous par exemple la profonde relation qui existait entre Dieu et Jérémie. Ce dernier qui a passé des épouvantables épreuves au point d'une de ses prières accuser Dieu de l'avoir séduit et abandonné. Où es-tu, Seigneur? Ensuite, une autre remarque que je voudrais vous lancer ce matin, c'est que prier, c'est s'y connecter. Prier, c'est s'y rapprocher. Prier, c'est aligner notre vie, nos sentiments sur la volonté de Dieu, qui a toujours des bonnes nouvelles à nous adresser. La prière, c'est une connexion. C'est pour ça que je ne comprends pas ces prières qu'on fait très vite. Seigneur, merci pour cela, au nom de Jésus, amen, et on part, on fait notre vie. Non. C'est pour ça que Jésus va parler de prier au Père dans les lieux secrets. La prière, c'est nous connecter à notre Dieu. Regarde à nouveau le texte, ce qu'il nous dit, ne soyez inquiets de rien, mais en toute occasion, par la prière, et la supplication, accompagnée d'actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Comme nous avons vu au début de cette réflexion aujourd'hui, nous avons plusieurs motifs, plusieurs raisons de vivre dans la méfiance, dans le doute, dans l'inquiétude, soit dans le monde, soit face aux autres, soit en nous-mêmes. Soit dans l'Église. Le sentiment d'incertitude est là, toujours prêt à nous tourmenter. Nous vivons dans une époque où le mal devient le burn-out, le stress. Combien de gens demandent aux médecins de les arrêter au travail pour pouvoir se reposer parce que c'est tellement stressant. Et nous, en tant que chrétiens, on est touchés là aussi. Néanmoins, un jour, nous avons pris une décision de vivre par la foi. Même avec beaucoup de difficultés, avec Dieu en Jésus-Christ, qui, selon cette parole que nous avons lue, va nous donner sa présence, sa paix, et tout cela par la confiance en lui et à travers la prière. J'aime beaucoup une phrase de saint Augustin sur la paix. Il dit « Paix, n'est-ce pas l'absence des conflits, peur, inquiétude. Paix est la présence, est la substance, la vie divine en nous et parmi nous qui nous donne discernement pour vivre dans le conflit, dans la peur et dans l'inquiétude. » Priez, parlez avec notre Dieu, notre ami, notre Père. Parmi toute cette sorte de réalité que nous vivons aujourd'hui, à mon avis, c'est l'essentiel pour notre vie. Mes amis, je crois que nous devons pratiquer la prière avec persistance et persévérance afin de trouver et expérimenter la paix offerte par Jésus. Ainsi, avec l'Église, c'est-à-dire avec nos frères et sœurs, nos amis, ainsi que chez nous, en particulier, ce à quoi Paul nous a encouragés, il nous encourage ce matin par la parole de Dieu, c'est de prier. Chercher la face de notre Dieu. Par conséquent, je crois que le fruit, ainsi que les sentiments divins, vont nous remplir et nous permettre de vivre une vie dans la joie, dans la paix et dans le discernement. Ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Et moi, je suis le premier à être concerné par cette parole. J'ai une nature extrêmement angoissante. Quand j'ai quelque chose dans la tête, ça reste pendant des journées et des nuits et des journées et des nuits. C'est là. On ne va pas rencontrer le Seigneur par nos recherches théologiques. On ne va pas rencontrer le Seigneur par nos pratiques de piété. On ne va pas rencontrer le Seigneur par notre engagement à l'Église. On rencontre le Seigneur dans notre prière et par la prière. Mais j'ai toujours appris que Dieu, il est un gentleman. C'est ça dans l'anglais? Gentleman. Gentleman. Il est en lore anglais. Il est quelqu'un qui nous respecte. J'ai toujours appris que Dieu ne nous utilise pas, que Dieu n'impose pas sa présence. J'ai toujours appris, à l'image de Jean chapitre 3, verset 16, qu'à tous ceux qui le recevront, il est là. À tous ceux qui cherchent, il se laisse trouver. À tous ceux qui frappent, il ouvre la porte. La porte que nous avons pour être dans la présence de Dieu, c'est la prière. Alors je vous invite à commencer cette année dans ce qui pour moi c'est l'essentiel, la prière. Prions au Seigneur. Non des prières belles, des choses déjà écrites, mais prions au Seigneur ce que nous avons dans notre cœur. Disons à Dieu, même si parfois notre prière va à contre-sens de notre désir, Même si parfois ce qui sort de notre bouche, c'est « Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné ?» N'oublions pas, même Jésus a fait cette prière. Mais ce que j'ai rencontré dans toute la parole, et ce que j'ai rencontré dans la vie des hommes et des femmes du Seigneur, c'est qu'après ces sentiments d'abandon par la prière, ils rencontrent le Seigneur. Un exemple frappant, c'est Job. Job passe par tout ça, il ne comprend pas. Et à la fin du livre, ce n'est pas mieux non plus. Il finit le livre sans comprendre le pourquoi. Mais il finit le livre pour dire, « Seigneur, avant je ne te connaissais pas, maintenant je te connais. Avant je te connaissais parce que quelqu'un m'avait parlé. » Donc, je t'ai cherché parce que quelqu'un m'avait parlé. Mais maintenant, je te connais. Prions. Seigneur notre Père, nous sommes devant ta présence. Et une année s'annonce devant nous. Une nouvelle année, Seigneur, qui, comme j'ai dit au début, annonce des bonnes choses et des mauvaises choses. Annonce des joies et des tristesses. Annonce de victoires et des combats. Annonce des soulagements et des souffrances. Je ne suis pas optimiste, Seigneur, dans un changement du monde. Ce n'est pas ça qui me motive et qui me donne l'espérance de continuer en toi. Ce qui m'anime ce matin, Seigneur, c'est l'espérance qui me donne ta parole, de la certitude que si nous prions, si nous te cherchons de tout notre cœur, si nous portons devant toi nos supplications, si nous portons devant toi nos actions de grâce, et des remerciements, des choses que tu as fait dans notre vie, si nous sommes devant toi, notre vie, malgré toutes les choses qui se passera, sera dans la paix et dans la joie du Seigneur. Pour moi, Seigneur, ces textes nous révèlent ces secrets. Et je suis le premier de l'Église à avoir besoin d'être dans ta présence. C'est pour ça, Seigneur, que ma prière ce matin, c'est que on puisse, Seigneur, dégager de notre vie tout ce qui n'est pas important. Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse réanimer cette flamme dans nos cœurs. Et qu'on puisse, Seigneur, cette année, comme notre premier but, chercher ta présence par et à travers la prière. Nous te demandons, Seigneur, que cette année, on puisse vivre dans la paix, Seigneur, qui vient de toi. Que cette année, Seigneur, nous puissions vivre, Seigneur, avec nos cœurs pleins de joie, parce que nous savons que tu es là avec nous. Que cette paix qui surpasse toute intelligence, qu'elle puisse être le garant de nos cœurs et de nos pensées constantes. Nous te prions, Seigneur, ce matin. Écoute nos prières, réponde-nous et donne-nous, Seigneur, cette présence ressentie. Parce que nous savons, Seigneur, que même si on ne sent pas ta présence, tu es toujours là. Mais qu'on puisse sentir cette présence dans notre vie. C'est ma prière ce matin, au nom de Jésus. Amen.